Vous êtes sur RTL.
Le grand jury RTL Le Figaro LCI, spécial élections européennes. Premier invité, François-Xavier Bellamy, tête de liste Les Républicains. Le débat est dirigé par Benjamin Sportouche.
Bonjour à tous et bienvenue donc dans ce grand jury spécial élections européennes, donc avec deux invités. Dans la seconde partie, nous recevrons Manon Aubry, tête de liste des Insoumis. Et puis tout d'abord, nous accueillons bien sûr la tête de liste des Républicains, François-Xavier Bellamy. Bonjour à vous.
Bonjour.
Merci d'être à nos côtés. Vous avez au moins un point commun avec Manon Aubry, c'est votre premier grand jury. Donc bienvenue. Et pour vous interroger à mes côtés, eh bien Alexis Brézet du Figaro.
Bonjour.
Et Christophe Jacubizine de TF1 LCI. Alors François-Xavier Bellamy, vous êtes la nouvelle star de la droite. Mais de quoi êtes-vous le nom? D'une nouvelle synthèse qui permettra à votre camp de s'unir dans la durée ou d'un conservatisme nouveau genre, défenseur en fait des fondamentaux de la droite? Sur l'immigration notamment, au risque d'une confusion avec le Rassemblement National, Marine Le Pen, vers qui certains de vos électeurs se sont désormais tournés. Pouvez-vous encore les rattraper à l'occasion de ces élections européennes? Car après une véritable embellie, vous accusez dorénavant dans les sondages un net reflux. Nous en parlerons dans cette émission, bien sûr, avec vous, François-Xavier Bellamy, en qui Philippe de Villiers voit le futur, je cite, Emmanuel Macron. Mais avant cela, quelques questions d'actualité. La première vous est posée par Alexis Brézet sur l'affaire Lambert.
Oui, on en parlait à l'instant. Le cas de ce jeune garçon qui est tétraplégique, qui est dans un coma profond depuis une dizaine d'années. Normalement, demain, le CHU de Reims devrait arrêter les soins, ce qui le conduira à une mort certaine. La conférence des évêques s'est étonnée de la précipitation avec laquelle cette affaire a été menée. Vous avez dit que c'était quelque chose d'inhumain. Mais certains vous rétorqueront que finalement, ça n'est jamais que l'application de la loi qui dit qu'il ne faut pas qu'il y ait d'acharnement thérapeutique.
La vraie question, c'est, et c'est vrai que c'est une question complexe parce qu'aujourd'hui, la science et la médecine conduisent à des situations qu'on ne connaissait pas auparavant. La vraie question, c'est est-ce que l'alimentation et l'hydratation sont un soin? Et si c'est le cas, nous sommes tous très malades. Parce que la dépendance de Vincent Lambert, c'est une dépendance à cette alimentation qui lui est effectivement prodiguée par un moyen technique puisqu'il ne peut plus s'alimenter seul. Et je crois que sur ce sujet, on devrait entendre le Comité international pour les droits des personnes handicapées qui dépend de l'ONU.
De l'ONU, oui.
Qui, et d'ailleurs lié à la France, parce que la France a ratifié la charte qui l'a constituée et qui a écrit au gouvernement pour demander qu'on puisse mettre en œuvre une sauvegarde.
Vous soutenez les parents, qu'on vous comprenne bien, François-Xavier Bellamy, vous soutenez les parents de M. Lambert qui demandent à la poursuite des soins. Ils vont d'ailleurs engager de nouveaux recours.
D'abord, je les soutiens. Comment ne pas les soutenir dans l'épreuve infinie qu'ils traversent? Je ne les connais pas, mais quand on imagine
alors que l'épouse de Vincent Lambert souhaite l'arrêt des soins, hein,
c'est en ça qu'on encore une fois, c'est une question d'une difficulté inouïe, mais comment ne pas dire sa compassion devant des parents à qui on annonce qu'on va leur rendre leur fils décédé dans quelques jours et qui vivent ce compte à rebours qui a quelque chose, c'est vrai, d'atroce. En disant ça, je ne mets en accusation personne. Je conçois bien que le sujet soit d'une très grande difficulté.
Mais vous souhaitez la poursuite des soins?
Je crois qu'on devrait écouter le Comité pour les droits des personnes handicapées qui demande qu'on se laisse le temps, encore une fois, de pouvoir parvenir à... Et ce que je ne comprends pas, je me permets de
donc
dire...
Donc la
c'est
poursuite
que...
des soins.
Ce que je ne comprends pas, c'est que d'autres instituts spécialisés, parce que Vincent Lambert n'est pas seul dans ce cas, il y a aujourd'hui 1500 patients français qui sont dans des situations post-relationnelles, dans des situations qui sont proches de la sienne. Aujourd'hui, des instituts spécialisés proposent d'accueillir Vincent Lambert. J'ai du mal à comprendre qu'effectivement
Il y a eu des appels à Emmanuel Macron, Philippe de Villiers, dont on parlait tout à l'heure. Vous pensez que le président de la République devrait intervenir? Est-ce que c'est son rôle?
Oui, je crois qu'il devrait intervenir, je crois qu'il devrait donner son sentiment sur cette question. Et c'est une question fondamentale derrière Vincent Lambert, c'est la question de notre rapport à la dépendance qui se joue, notre rapport à l'extrême dépendance. Et je crois qu'aujourd'hui, ceux qui font la promotion de l'euthanasie, qui expliquent qu'il faudrait mourir dans la dignité, commencent d'abord par déclarer indignes de vivre ceux qui sont effectivement dépendants. À ce compte-là, nous avons en effet de vraies préoccupations à avoir sur l'avenir de l'humain en nous, parce que l'humain, c'est,
une très grande majorité de Français sont favorables à une loi sur l'euthanasie, une très grande majorité, à longueur de sondage.
Écoutez, c'est aussi la folie française de la multiplication des lois. On a, dans notre famille politique, un parlementaire exceptionnel qui s'appelle Jean Leonetti, qui a réussi à faire voter une loi qui a fait l'unanimité des parlementaires il y a quelques années. Je crois que cette loi, il faudrait lui laisser le temps d'être appropriée petit à petit par les équipes soignantes, par les personnels médicaux. Et ensuite, nous verrons si elle ne permet pas de répondre aux difficultés. Mais je crois pour ma part, d'une part, que cette loi mérite d'être, encore une fois, vraiment appliquée d'abord. Et deuxièmement, je crois, oui, c'est vrai, que si nous entrons dans cette voie dangereuse qui consiste à dire qu'une vie dépendante, une vie fragile, une vie malade ne mérite pas d'être vécue, alors nous allons construire un monde inhumain. Et c'est un enjeu majeur.
On vous a entendu sur ce sujet. Autre question sur un sujet de société également, Christophe Jacubizi.
Oui, un sujet évidemment d'éthique aussi. Plusieurs États américains ont considérablement durci les conditions d'accès à l'interruption volontaire de grossesse, notamment l'Alabama, y compris pour les grossesses suite à des cas d'inceste ou de viol. Plusieurs États américains du Sud ont lancé une offensive pour aller jusqu'à la Cour suprême. Vous êtes personnellement, vous l'avez dit, hostile à l'IVG. Est-ce que vous comprenez ce qui est en train de se passer aux États-Unis? Est-ce que vous soutenez ce mouvement?
Non, mais je ne vais pas commenter la vie politique américaine. On est à la veille d'une élection européenne. Dans une semaine, une des élections européennes sans doute les plus importantes depuis le début du débat européen. Et ce serait quand même incroyable qu'on en vienne sans cesse à parler de ce sujet.
Non, mais François-Xavier, vous savez très bien que c'est un mouvement, éventuellement, qui peut aussi traverser l'Atlantique. Est-ce que dans ce cas-là, vous pouvez nous dire votre avis sur cette
Aujourd'hui, il y a absolument personne ne remet en cause la loi Veil. J'ai été durement attaqué pour avoir employé des mots que Simone Veil elle-même utilisait. Et je crois que cette espèce de jeu grossier que d'ailleurs joue La République En Marche maintenant, qui consiste à se revendiquer en permanence de Simone Veil pour tenter de cristalliser le débat sur un sujet qui n'a rien à voir avec cet enjeu européen, ne permet pas d'offrir aux Français un vrai choix démocratique. Enfin, encore une fois, je voudrais quand même dire un mot de la situation dans laquelle on est qui me paraît un peu folle. Et je ne dis pas ça pour vous, bien sûr, mais pour le contexte général qu'on est en train de connaître. L'Europe traverse une crise profonde. Une crise économique et commerciale, une crise migratoire qui, c'est vrai, est devant nous et non pas derrière nous.
Vous dites une crise d'identité aussi.
Une crise d'identité, bien sûr, mais qui est d'abord le fait que nous ne savons plus, d'une certaine manière, partager ce que nous sommes à tous les jeunes qui grandissent en France, qui grandissent en Europe. Quel est notre lien commun? Voilà, au fond, ce qui fait l'inquiétude des Français. Et depuis des semaines, avec toute la famille politique qui nous entoure, avec les parlementaires qui sont là avec nous aujourd'hui, nous avons tenté de prendre ce débat au sérieux. Nous avons fait un vrai projet, nous avons porté ce projet partout en France. Et j'ai le sentiment qu'on n'a pas eu droit à un vrai débat.
Alors,
on va en parler,
vous savez, notamment, lundi soir, la grande confrontation sur LCI en partenariat avec RTL. Mais revenons.
Et le Figaro,
bien évidemment, comme toujours. Je ne le citais pas, mais c'était évident, vous avez raison, Alexis Brézé. Et il y a d'autres sujets de société, on veut vous entendre aussi là-dessus. C'est normal, vous allez être député européen pendant 5 ans, vous resterez au Parlement européen pendant 5 ans, François Guébert.
Bien sûr, j'ai déjà eu l'occasion de le dire, c'est un mandat.
Est-ce que vous vous engagerez contre un texte qui sera présenté par le gouvernement? La PMA, la procréation médicalement assistée pour toutes les femmes.
Ça, c'est encore une fois un texte purement national, mais oui, on peut en dire un mot, je me suis déjà exprimé sur le sujet, ça concerne la France, ça concerne notre avenir. Oui, mon sentiment profond, c'est que effectivement, nous ne devons pas ouvrir la PMA aux femmes seules ou aux couples de femmes, pas plus que d'ailleurs la gestation pour autrui, à laquelle Mme Loiseau s'est dite favorable. Pour une raison très simple, c'est que la procréation médicalement assistée est aujourd'hui un acte thérapeutique qui vise à remédier à l'infertilité d'un couple qui ne peut pas avoir d'enfant pour des raisons médicales. L'extension, je crois que c'est une manière impropre d'ailleurs de le désigner, l'extension de la PMA à des femmes seules ou à des couples de femmes n'a plus pour but de guérir une infertilité pathologique, une infertilité médicale, mais de satisfaire un désir parfaitement légitime, parfaitement respectable. Mais la vraie grande question qui nous est posée, c'est faut-il libérer toutes les forces de la science et de la technique? Faut-il faire évoluer notre droit pour que tous nos désirs
soient
satisfaits?
D'autres pays européens l'accordent, ce droit. Est-ce que vous, ce sera l'un de vos combats au Parlement européen de faire revenir ces pays sur cette législation qu'ils ont adoptée?
Je crois qu'il faut tenir au principe de subsidiarité qui est très important dans le travail européen. Le principe de subsidiarité, c'est que l'Europe, elle n'est pas là pour décider à la place des États de la politique qu'ils doivent mener. L'Europe, son rôle, c'est de faire en sorte que nous puissions agir plus efficacement ensemble sur les sujets qui requièrent que nous soyons coordonnés plutôt que d'être seul, isolé et donc moins efficace. Et je crois que ce principe de subsidiarité interdit que l'Europe se mette à la place des États. C'est peut-être une divergence aussi avec La République En Marche qui a une vision fédéraliste. En revanche, il me semble que sur une autre question qui est encore différente, qui est la question de la gestation pour autrui, oui, ça c'est une question qui touche effectivement à la manière dont la dignité humaine, le principe même des droits de l'homme est touché, parce que là il s'agit de commercialiser.
Et là, vous voulez une interdiction en Europe. Vous souhaitez que le Parlement européen se prononce contre?
Et moi, je crois que l'Europe gagnerait à parler d'une seule voix sur la question de la non-marchandisation du corps, comme pour la lutte contre l'eugénisme.
Oui, mais alors, le principe de subsidiarité peut aussi s'appliquer si un pays
non, parce que là, pour le coup, on ne peut être plus efficace ensemble, en effet. Quand on voit qu'en Chine, aujourd'hui, pour la première fois, on annonce la naissance de bébés qui sont nés avec une modification génétique, on voit que l'eugénisme est aujourd'hui une vraie question qui se présente à nous. Et ce sera un des grands défis politiques de notre avenir. Si on croit vraiment à l'écologie, il faut se préoccuper de transmettre à ceux qui nous suivront un monde encore habitable par des humains, mais il faut aussi
l'eugénisme est un autre débat que la GPA.
Il faut aussi se préoccuper de transmettre une humanité qui soit encore vraiment humaine.
Sujet plus prosaïque, mais qui préoccupe aussi les gens, et depuis longtemps, l'affaire de la limitation de vitesse, les 80 km/h. Le Premier ministre Édouard Philippe vient d'assouplir le dispositif, et finalement, on croit comprendre que les présidents de conseils généraux d'une part ou les préfets d'autre part pourraient remettre la limitation de vitesse à 90 à l'heure. Ça vous paraît une bonne chose ?
Bien sûr, que de temps perdu, et comme on aurait pu prendre le temps d'écouter plus tôt les élus locaux, tous ceux qui sur le terrain alertaient sur l'impact d'une telle mesure pour la vie quotidienne de beaucoup de Français, notamment en zone rurale. Je crois que les expérimentations qui avaient été menées n'avaient pas permis de prouver que le fait d'abaisser la vitesse...
Il y a quand même le risque que les accidents remontent.
Les expérimentations qui avaient été menées avant le passage aux 80 km/h n'avaient pas permis de démontrer que cette baisse de la vitesse faisait baisser le nombre d'accidents. Et donc aujourd'hui, il faut qu'on puisse revenir à la raison. Et je crois que ce qui compte, c'est de garantir aux Français, en particulier effectivement dans les zones rurales, qu'on ne va pas sans cesse multiplier des règles de plus en plus compliquées qui leur rendent la vie difficile.
Christophe Jakubizine.
Encore un sujet qui préoccupe les Français, leur emploi, le chômage. Bon résultat sur ce front-là de la part du gouvernement, avec la baisse du chômage, encore une fois, au premier trimestre de cette année. Est-ce qu'au fond, ça veut dire que la politique économique menée par le gouvernement est globalement positive ?
Globalement, la conjoncture économique est surtout favorable, mais notre taux de chômage baisse moins. Notre taux de chômage baisse beaucoup moins que celui des autres pays européens. Et nous sommes toujours, dans les pays européens, celui qui vit le plus durement cette question du chômage de masse. Donc il faut évidemment qu'on puisse faire enfin les réformes nécessaires pour que cette conjoncture économique puisse bénéficier de façon plus forte encore à nos entreprises et évidemment à l'emploi. Et sur ce front-là, je crois que très peu de choses ont encore été réellement accomplies. Le coût du travail n'a pas baissé, le poids des charges et des normes n'a pas diminué. Et au contraire, on voit que le président de la République, dans sa conférence de presse, a décidé maintenant de faire peser sur les entreprises le coût de la fiscalité supplémentaire que vont représenter les milliards d'euros qu'il a annoncés pour pouvoir sortir d'une crise sociale qu'il avait lui-même provoquée. Donc évidemment, on ne s'oriente pas malheureusement vers cet oxygène dont nos entreprises ont besoin. Et c'est l'asphyxie. Je le vois depuis le début de cette campagne, tous les jours sur le terrain, et l'asphyxie de ceux qui travaillent, de ceux qui entreprennent, des commerçants, des artisans, qui ont tant de mal à recruter, parce que recruter est aujourd'hui un parcours du combattant.
En revanche, on peut dire que le plan qui a été annoncé par le président Macron le 10 décembre, avec des augmentations de pouvoir d'achat, a contribué à l'économie, puisqu'on voit que finalement le pouvoir d'achat a augmenté, et qu'au fond, ces mesures de relance, un peu à la keynésienne, ont fonctionné. Est-ce que... Là aussi, vous donnez quitus sur ce mouvement-là ?
Mais en réalité, nous, ça fait très longtemps qu'on disait qu'il fallait baisser la fiscalité, qu'il fallait baisser l'impôt sur le revenu pour pouvoir faire en sorte que les Français qui travaillent retrouvent un peu d'oxygène, encore une fois, et qu'on puisse sortir de la crise sociale dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Mais le problème, c'est que si vous ne faites pas en parallèle une vraie réforme de l'État, une vraie réforme de la dépense publique, une vraie réforme de la manière dont notre pays est aujourd'hui administré, eh bien, tout le monde le comprend bien, personne n'est dupe. Les promesses d'aujourd'hui, ce sont les impôts de demain. Et ce que nous gagnons aujourd'hui en pouvoir d'achat, c'est ce que nous paierons forcément demain, ou ce que les générations qui viendront paieront sur la consommation d'aujourd'hui. Et ça, je crois que c'est une injustice majeure à laquelle il faut mettre fin.
Alexandre,
le Conseil constitutionnel vient de dire que rien ne s'opposait à ce que Nicolas Sarkozy soit jugé dans l'affaire Big Malion. Dans cette affaire, vous diriez quoi ? Que la justice fait son travail ou bien que c'est de l'acharnement judiciaire contre Sarkozy ?
Je ne vais pas commenter de décision de justice. Je crois qu'il faut que la justice puisse faire son travail. Cela étant dit, effectivement, d'abord, je m'étonne peut-être un peu du calendrier qui fait qu'avant chaque élection, on voit surgir des feuilletons judiciaires qui peut-être ont aussi pour but de colorer
le
choix des
Français. Alors le Conseil constitutionnel qui était saisi. Oui.
Et maintenant, voilà, encore une fois,
s'immisce dans la campagne, le Conseil constitutionnel, en prenant cette décision.
Je dis simplement que je m'étonne de ce calendrier. Peut-être est-il totalement fortuit, mais enfin, je n'ai pas plus de commentaires à faire.
Est-ce que vous souhaitez la participation de Nicolas Sarkozy dans la dernière ligne droite de cette campagne en vous soutenant à un meeting ? Par exemple, on sait encore qu'il est une figure tutélaire pour la droite.
C'est une figure importante de notre famille politique, bien sûr. J'ai eu l'occasion d'échanger avec lui. Il nous a réaffirmé son soutien récemment. Il l'a dit aux parlementaires qu'il rencontrait de manière tout à fait publique, donc il n'y a aucune ambiguïté.
Mais vous aimeriez qu'il vienne à un meeting ?
C'est son choix, c'est sa décision. En tous les cas, moi, je suis très heureux de ce soutien, comme je suis très heureux d'ailleurs du soutien de plus de 800 maires qui nous ont aujourd'hui, par une tribune, apporté leur confiance dans le journal du dimanche.
Alors Nicolas Sarkozy, à cette même réunion que vous évoquiez avec des parlementaires, il a dit « Moi, quand j'avais fait 12,8% aux élections européennes, en 99, je crois, j'ai démissionné le jour même. » Est-ce qu'il parlait pour Laurent Wauquiez, selon vous ?
Vous d'abord, êtes de 12,5% dans notre sondage.
D'abord, je crois que vous verrez une belle surprise dans quelques jours, parce que tous les jours sur le terrain, tous les jours, je le vois, il y a aujourd'hui beaucoup de Français qui ont décidé de ne pas se laisser piéger par le faux débat qu'on voudrait leur imposer. Et effectivement, ce tassement sondagier, il est sans aucun doute dû à cette mise en scène à laquelle on voudrait faire croire, comme si il n'y avait dans ce débat européen que M. Macron et Mme Le Pen. On voit très bien que cette mise en scène ne sert qu'une seule personne, c'est M. Macron, et on voit très bien que M. Macron est en train de faire de cette élection européenne l'occasion de faire que le match qui s'installe jusqu'à la présidentielle le sauve de son bilan et de son absence de vision. Parce que la seule personne qui peut sauver Emmanuel Macron, c'est Marine Le Pen. Et ça, je peux vous dire que beaucoup de Français l'ont parfaitement compris. Je le vois tous les jours
dans
les
meetings. Mais visiblement, vous n'arrivez pas à les convaincre. Beaucoup de Français ont déjà décidé. Personne n'interdit les Français de voter comme ils le souhaitent. Visiblement, il y a un réflexe vote utile.
Vous verrez, ils voteront comme ils le souhaiteront.
Et donc, vous pensez arriver à combien? Quel est votre objectif aujourd'hui?
Le réflexe du vote utile.
Une semaine avant l'élection. Une semaine avant l'élection.
Le réflexe du vote utile, je vais vous dire encore une fois, ce vote utile, il n'est utile qu'à une personne, il est utile à M. Macron. C'est M. Macron qui profite de cet antifascisme de théâtre pour nous faire croire qu'une menace pèse sur la France.
Oui, vous avez dit ça, oui, antifascisme de théâtre, mais ça veut dire quoi? C'est-à-dire que quand Emmanuel Macron dit qu'une victoire du Front National serait grave, vous dites que non, c'est pas vrai?
Mais d'abord, M. Macron le dit lui-même, le Front National a gagné les dernières élections européennes en 2014. À l'époque, il était ministre. Il est aujourd'hui président de la République. Donc le sondage qui donne aujourd'hui le Front National en tête est l'exacte corrélation de l'échec de M. Macron et de la politique qu'il mène depuis 5 ans, depuis 7 ans maintenant, en lien avec François Hollande. Et donc, je crois qu'il faut d'abord qu'il prenne les choses avec un peu plus d'humilité. Et deuxièmement, je crois qu'il faudrait qu'il permette au jeu démocratique de s'exprimer totalement, en reconnaissant qu'en effet, il n'y a pas aujourd'hui, c'est faux, un match entre M. Macron et Mme Le Pen. Moins de 20% des Français, si on écoute les enquêtes d'opinion auxquelles vous vous référez, moins de 20% des Français qui pourraient aller voter se reconnaissent dans ce clivage. Moins de 20% sont rassemblés par M. Macron et par Mme Le Pen.
En 2017,
et donc, ça veut dire,
vous avez dû faire un choix. Quel a été s'il était ce choix au second tour de la présidentielle de 2017 entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron?
J'ai déjà répondu à cette question en répondant que je ne répondrai pas à cette question pour une raison très simple. C'est que précisément tout le travail que nous faisons aujourd'hui avec Agnès Evren, avec Arnaud Danjean, avec tous mes colistiers, c'est d'apporter une vraie alternative à la France. Et je crois qu'au fond, on voit bien que M. Macron et Mme Le Pen font système pour asphyxier la démocratie
française.
Mais
vous mettez un signe égal entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, c'est-à-dire, encore une fois, on vous repose la question, est-ce qu'une victoire du Front National serait un danger pour la France, ou vous estimez que cela équivaut aussi à une victoire d'Emmanuel Macron?
Je vais peut-être vous choquer en disant ça, mais le danger pour la France, ce n'est pas la victoire du Front National. Le danger pour la France, c'est tout ce qui cause les succès du Front National. Le danger pour la France, c'est la crise économique. Le danger pour la France, c'est le chômage de masse. Le danger pour la France, c'est le désespoir dans lequel beaucoup de Français sont en train de s'abîmer. Le danger pour la France, c'est l'immigration massive que nous ne savons pas maîtriser. Le danger pour la France, c'est le fait que nous ne soyons pas capables d'apprendre à nos enfants les éléments fondamentaux d'une culture et d'un savoir qui leur permettent de s'insérer dans la société. C'est ça le danger pour la France. Et au fond, dans
donc
ce combat,
pas
on voit bien.
Pouvoir, non, vous répondez pas clairement à la question.
Pardonnez-moi, on voit très bien. On voit très bien ce qu'il y a.
Enfin, l'arrivée au fond, en tête du Front National, du Rassemblement National, est-ce que vous dites, écoutez, c'est le jeu de la démocratie, ça ne sera pas une plus mauvaise nouvelle que si la République En Marche arrive en tête?
Bien sûr que c'est une mauvaise nouvelle. Si je croyais que c'était la solution, je ne m'engagerais pas à côté de cette fausse alternative. Je ne crois pas que le Front National apporte des solutions. Il prospère sur la colère. Mmh. Mais enfin, s'attaquer au Front National, ça n'a jamais fait baisser le Front National. C'est la vieille stratégie de François Mitterrand, à quoi l'on voit d'ailleurs que M. Macron reprend les techniques de la gauche à laquelle il appartient toujours. C'est la vieille stratégie cynique qui consiste à faire
en sorte du coup, l'instrumentalisme, le Front National.
Moi, vous voyez, M. Macron rentre dans cette campagne en disant, il l'a dit en Roumanie, je vais mettre toute mon énergie pour battre Marine Le Pen. Eh bien, il aurait peut-être pu mettre toute son énergie pour réformer la dépense publique. Il aurait pu mettre toute son énergie pour faire en sorte de sortir de la crise écologique. Il aurait pu mettre toute son énergie pour s'investir sur ces grands sujets. En réalité, M. Macron est très heureux que Mme Le Pen soit aujourd'hui face à lui, parce qu'il sait très bien qu'encore une fois, c'est sa seule chance d'être réélu.
Donc
en 2022.
Il instrumentalise.
Et moi je le dis à tous les Français.
La seule
chance de sortir de cette alternative inexistante que représente Mme Le Pen, de cette impasse que constitue la colère entretenue, la seule chance de s'en sortir, c'est de permettre à une alternative crédible de relever la tête.
Mais alors,
vous
lancez aujourd'hui, qu'on vous comprenne bien, parce que vous avez certains de vos électeurs sont partis au Rassemblement National, d'autres chez Emmanuel Macron, des électeurs de centre-droit. Est-ce que vous appelez qui aujourd'hui? Tous ces électeurs globalement, plus ceux du centre-droit à revenir vers vous?
Moi,
quel
je
est
parle
votre
à
message
tous les Français. Je n'ai jamais fait de marketing électoral. Je crois que la démocratie, ça consiste à parler ensemble des grands défis qui sont devant nous. Et moi, je dis encore une fois, Monsieur Macron rentre dans cette campagne en disant « je suis contre Madame Le Pen », Madame Le Pen en disant « je suis contre Monsieur Macron », eh bien nous voulons nous attaquer aux problèmes des Français. Et c'est par là que la politique
les interventions d'Emmanuel Macron, par voie d'interview, dans cette campagne, vous paraissent légitimes ou non? Vous vous dites « c'est normal » ou vous trouvez que ce n'est pas normal que le président de la République prenne parti?
Non, moi j'ai aucun problème avec le fait que le président de la République s'implique dans ce débat, c'est son droit le plus entier et je ne lui conteste pas le fait d'assumer une vision, mais je souhaiterais qu'il assume une vision plutôt que de nous expliquer avec des trémolos dans la voix, en jouant sur une inquiétude artificielle que Marine Le Pen est le grand danger.
Vous appelez l'antifascisme de terre.
Christophe Jacubizine.
Est-ce que pour mettre fin à la politique d'Emmanuel Macron, comme que vous avez dénoncé, est-ce que l'union des droites, c'est à terme une perspective? Marion Maréchal l'ouvre, pas Marine Le Pen, et vous?
Moi, je ne crois pas une seule seconde à cette perspective. D'abord parce que je ne me reconnais pas avec Marine Le Pen de base commune dans ces débats politiques.
Et avec
on le voit très bien sur la question européenne. Pardonnez-moi, vous parliez tout à l'heure des questions migratoires en disant que c'était une manière pour nous de nous mettre derrière le Rassemblement national, mais pas du tout. Nous avons une proposition très claire pour la France et pour l'Europe face à la crise migratoire. Nous disons qu'il faut bien sûr maîtriser les frontières françaises et faire en sorte que chaque pays maîtrise sa politique migratoire tout en gardant la liberté de circulation que nous avons conquise aujourd'hui, mais que pour cela, il faut travailler ensemble en Europe. Nous ne croyons pas, contrairement à M. Macron, que l'Europe devrait se contenter seulement de répartir des quotas de migrants sur le territoire européen, mais nous ne croyons pas, contrairement à Mme Le Pen, que c'est en déconstruisant l'Europe que nous serons plus
forts.
Mais
sur cette histoire de frontières...
Et c'est très important. Il n'y a pas de base commune sur ce plan. Mais je ne me reconnais pas du tout dans la déconstruction de l'Europe que propose Mme Le Pen et qu'elle a pratiquée au cours des années passées au Parlement européen.
Mais sur cette affaire de frontières, quelque chose de pas absolument clair. C'est que vous dites à la fois, il faut les frontières extérieures, des frontières intérieures. Et vous dites, mais c'est temporaire, transitoire, le temps que... Mais est-ce qu'il ne faudrait pas dire tout simplement rétablissons les frontières intérieures et puis on n'en parle plus?
Non, ce que nous disons,
mais
c'est
ça voudrait dire on sort de Schengen, ce que vous ne dites pas.
Ce que nous disons, c'est qu'il faut travailler ensemble pour défendre les frontières extérieures de l'Europe et de l'espace Schengen. Il faut faire en sorte que les demandes d'asile soient désormais effectuées à l'extérieur de l'Europe parce que sinon, nous allons continuer avec cette impuissance qui fait tant de drames en mer Méditerranée et qui conduit dans une impasse tant de jeunes venus d'Afrique qui rêvent d'un Eldorado qu'en fait ils ne trouveront pas. Mais nous disons simultanément que chaque pays doit pouvoir maîtriser sa politique migratoire. Et ça...
Donc c'est on rétablit les frontières aux frontières des pays?
Non, chaque pays doit pouvoir maîtriser sa politique migratoire, les conditions dans lesquelles il accueille et dans lesquelles il donne le droit de séjour aux personnes qui viennent chez lui, et qu'il est pour cela nécessaire, c'est vrai, de pouvoir maintenir cette dérogation qui existe aujourd'hui dans le code Schengen, qui permet aux États de faire des contrôles ciblés à leurs frontières quand c'est nécessaire, parce que s'il y a une crise migratoire qui se produit, la fragilité d'un État ne doit pas rejaillir sur tous les autres. Je me permets de terminer, c'est très important, c'est déjà le cas aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez des dizaines de milliers de personnes qui ont été arrêtées à la frontière franco-italienne, mais ça n'a jamais empêché les travailleurs transfrontaliers de passer, ça n'a jamais empêché les Européens de bénéficier de la libre circulation.
Il faut prolonger ce dispositif temporaire.
Il faut effectivement absolument prolonger ce dispositif temporaire.
Vous dites, vous êtes un homme politique conservateur. Est-ce que vous acquiescez ou pas?
Ce qui m'amuse beaucoup, c'est ce besoin de tout réduire à des étiquettes, mais je comprends que ce soit parfois nécessaire. J'ai écrit un livre, Demeure, il y a quelques mois, dans lequel j'expliquais que le conservatisme en soi ne pouvait pas résumer une proposition politique pour le temps de crise que nous connaissons. Mais passons. Je serais d'accord pour vous dire qu'effectivement, dans l'époque dans laquelle nous sommes, l'un des enjeux fondamentaux, c'est de pouvoir sauver ce qui doit être transmis aux générations qui viennent. Et je pense bien sûr à la question de cet environnement que nous avons besoin de rééquilibrer, que nous avons besoin de protéger. Je pense aussi, évidemment, à notre culture,
non, mais parce
à notre civilisation.
Pose la question, parce que Marion Maréchal, par exemple, je suis une femme de droite conservatrice. Voilà. Et sur ce plan-là, on se dit, est-ce que les passerelles entre vous sont vraiment impossibles?
Vous voyez, une raison supplémentaire, c'est vrai que moi, pour ma part, je ne crois pas qu'il faille définir une proposition politique par le conservatisme. Le conservatisme est une tradition politique intéressante, féconde, mais en tant que telle, le conservatisme a été pensé dans une époque qui n'était pas en crise comme la nôtre. Et je ne crois pas que le conservatisme peut à lui seul répondre aux défis de l'avenir.
Puis d'ailleurs,
pardon.
Non, on va en venir à votre programme. Dans le fond, c'est l'heure de notre rubrique Question Express.
Le grand jury, Question Express.
Alors François-Xavier Bellamy, 5 propositions pour ou contre la fin de la règle des 3% de déficit?
Contre, bien sûr. Il faut qu'on arrive à équilibrer notre budget. Et d'ailleurs, les 3% sont évidemment déjà le signe d'un échec collectif. Un État qui transmet à ceux qui le suivront seulement des dettes et des déficits est un État qui est intérieurement déjà fragile.
Supprimer le Parlement à Strasbourg en gardant Bruxelles?
Contre, absolument. Nous proposons, au contraire, s'il faut mettre fin à cette dualité des sièges du Parlement, de ne garder que le siège de Strasbourg, celui qui figure dans nos traités, parce que Strasbourg, c'est le cœur de l'Europe.
C'est 114 millions d'euros par an pour quelques jours de séance à Strasbourg.
Exactement. S'il faut supprimer la dualité des sièges qui est effectivement
coûte cher. On supprime Bruxelles. Et vous faites un bras de fer avec l'Allemagne là-dessus.
Hop là, je m'emporte.
Votre verre d'eau est tombé.
Bien sûr, ce sera un bras de fer. Ce sera un bras de fer si nécessaire aussi avec, y compris nos propres alliés allemands. Au sein du PPE, ça a été l'occasion pour La République En Marche d'entretenir quelques fake news sur notre propre position. Mais nous avons toujours été clairs, nous tenons au siège de Strasbourg.
Un salaire minimum européen ?
Évidemment non. C'est vraiment la fausse bonne idée à l'état pur. D'abord, la plupart des pays européens ont déjà un salaire minimum. Ceux qui nous font de la concurrence déloyale sont aujourd'hui ceux qui ont un salaire minimum, qui correspond au standard que Mme Loiseau exprime. Donc cette proposition n'aurait aucun effet concret, aucun. La vraie question, c'est d'obtenir une vraie révision des travailleurs détachés. Cette révision que le gouvernement n'a pas obtenue, nous nous battrons pour
Vous avez voté quand même la révision qu'a proposée le gouvernement, qui change un peu les choses, c'est parce qu'on paye quand même le salaire minimum de l'État où on travaille. Vous l'avez voté.
C'était un premier pas. Évidemment, il fallait le voter. L'idée, c'était d'avoir à travail égal, salaire égal, mais on sait que le vrai problème, c'est les charges sociales. Et c'est la raison pour laquelle il faut qu'on arrive à avoir une vraie révision. Je le dis tout simplement, il fallait évidemment la voter parce que c'était un premier pas, mais en acceptant qu'on ne fasse que ce premier pas, le gouvernement a sans doute manqué une chance historique d'obtenir une révision complète dont nous avons
un
vraiment...
Un budget de la zone euro, François-Xavier Bellamy, pour ou contre ?
Contre, évidemment aussi. Le budget de la zone euro, d'abord, personne n'y croit en Europe, surtout quand ce budget de la zone euro est proposé par l'État qui est aujourd'hui, grâce à M. Macron, 28e sur 28 en matière de déficit public. Évidemment, quand vous proposez aux Allemands de mutualiser nos dettes, ils vous regardent avec un peu d'ironie. La vraie question, c'est comment est-ce que nous allons faire les réformes nécessaires pour pouvoir faire en sorte de retrouver notre compétitivité.
Cette tension qui monte avec l'Allemagne, entre l'Allemagne et le gouvernement, et même maintenant, vous nous le dites vous-même, entre vous et l'Allemagne, c'est quelque chose qui vous préoccupe ?
Alors, nous et l'Allemagne, pas du tout. Nous, on a...
Là, vous dites, on va faire un bras de fer avec les Allemands.
On a des points de désaccord, mais c'est le dialogue européen.
Allemand, avec qui vous êtes allié au sein du PPE ?
Au sein du PPE, ouais. Bien sûr. Nous, on a un lien fort avec... la famille politique allemande de la CDU-CSU qui est au PPE.
C'est cette
avec
famille
nous.
Qui veut fermer Strasbourg.
Mais encore une fois, on a des désaccords, ça ne veut pas dire qu'il y ait des tensions. On a passé une journée de campagne avec Manfred Weber, qui est le tête de liste de la CDU-CSU et du PPE en Allemagne. On a fait un meeting commun. On a une relation qui, au contraire, est excellente et très constructive. Et je crois que c'est très important que les Français comprennent que cette relation sera là pour les servir demain, parce qu'il faut en effet que la voix de la France sorte de cette fragilité dans laquelle M. Macron nous a enfermés. Jamais. On avait entendu une chancelière allemande, et Mme Merkel en particulier, avoir des mots aussi durs sur un président de la République française.
Des relations conflictuelles.
Et ça, c'est très préoccupant pour la France.
Et si d'ailleurs
Mme Kramp-Karrenbauer a proposé qu'on supprime le siège
successeur
de Strasbourg,
possible de Mme
c'était,
Merkel.
C'était le signe de cette fragilité de la France qui fait qu'aujourd'hui, elle est moins considérée
dernière
dans le débat.
Dernière proposition, changer les traités européens pour ou contre, François-Xavier Bellamy ?
Sans doute pour, ce sera nécessaire sur un certain nombre de sujets, et ce sera nécessaire en particulier parce que c'est une des propositions que nous faisons pour inscrire la mention de nos racines dans nos traités fondateurs. On a besoin de dire ce qu'est l'Europe, de dire qu'elle est une civilisation.
C'est pour ça qu'il faut l'unanimité, on peut encore changer les traités européens.
Mais ça n'est pas un préalable à toutes les propositions que nous faisons. Nous avons raisonné dans la plupart de nos propositions à traité constant pour que ces propositions puissent être mises en œuvre concrètement, de manière rapide et simple. Cela étant dit, il y aura évidemment un jour ou l'autre, bien sûr, une révision des traités, parce que l'Europe devra avancer et s'ajuster sur quelques points.
Dernière question, Christophe Jacubizine.
Alors vous prenez une forme de protectionnisme, la fin de la naïveté européenne en matière commerciale, simplement. Vous avez voté, enfin vos députés, encore une fois, UMP, avaient voté, 60% d'entre eux, la ratification du traité CETA avec le Canada. Ce n'est pas une contradiction entre ce que vous dites et ce que vous faites ?
Nous, ce que nous disons, c'est qu'il faut sortir de la naïveté et qu'il faut réussir à exiger de nos partenaires commerciaux une vraie réciprocité. Nous ne sommes pas pour nous renfermer entre quatre murs. Nous croyons à la fécondité de l'échange, à la liberté du commerce. Et nous croyons d'ailleurs à la force de nos entreprises, de nos savoir-faire, de nos artisans, de nos ouvriers, de nos agriculteurs. Il faut que les traités de libre-échange soient votés lorsqu'ils peuvent servir nos producteurs, nos agriculteurs, nos entreprises et nos emplois. Et le CETA a permis, par exemple, de protéger plus de 70 appellations d'origine, par exemple dans le secteur de l'agriculture. On voit qu'il y avait effectivement des atouts à en retenir. Ça n'était pas aussi dénué d'inquiétude. C'est pourquoi certains de nos parlementaires ne l'ont pas voté. Par exemple, le Mercosur, qui lui est un accord qui menace directement
avec l'Amérique latine.
Cet accord-là est très dangereux.
Là, on est sûr que personne ne votera celui-là.
Bien sûr. Et non seulement personne ne le votera de notre famille politique, mais c'est même notre famille politique.
Voilà,
et Michel Dantin en particulier. C'est Michel Dantin qui a permis de stopper les négociations sur le Mercosur. Je m'inquiète de la position du groupe ALDE que M. Macron et ses parlementaires rejoignent dans quelques jours, parce que ce groupe ALDE est un groupe qui, lui, pour le coup, fait du libre-échange.
Bellamy, voilà un engagement clair que vous venez de prendre sur le Mercosur. C'était votre grand jury. On se retrouve dans Merci à vous. On se retrouve dans quelques instants pour la seconde partie avec Manon Aubry, tête de liste des Insoumis. À tout de suite.
suite du grand jury RTL Le Figaro LCI, spéciale élections européennes. Deuxième invité, Manon Aubry, tête de liste La France Insoumise. Le débat est dirigé par Benjamin Sportouche.
Bonjour Manon Aubry, bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour ce premier grand jury. Je disais, vous aviez ça en partage avec votre prédécesseur à cette place, François-Xavier Bellamy. À mes côtés toujours, pour vous interroger, Alexis Brézet du Figaro.
Bonjour.
Et Christophe Jakubizine de TF1-LCI qui vous pose la première question d'actualité de cette seconde partie d'émission.
Sur l'affaire Lambert, on vient d'entendre que les parents de ce jeune homme qui est effectivement dans le coma depuis 10 ans, qui est alimenté de manière médicalisée, vont essayer de faire un recours pour empêcher l'arrêt d'alimentation de M. Lambert. Est-ce que vous soutenez la démarche des parents ?
Je pense que tout d'abord, c'est toujours une histoire qui est difficile, qui divise une famille et qu'il faut prendre tout cela avec des pincettes et que ce n'est pas à moi de dire à la famille ce qu'elle doit faire. D'un point de vue juridique, néanmoins, il y a eu différentes décisions, à la fois de la part du Conseil d'État, puis de la CEDH, de la Cour européenne des droits de l'homme, qui disent la même chose, qu'il ne faut pas d'acharnement thérapeutique. Et je crois que ces décisions juridiques doivent être la voie à suivre et que ça pose plus largement la question de la fin de vie digne et des droits que l'on a sur son corps. Et pour faire le parallèle aussi avec comment avancer sur la question de ces droits, je pense que à la fois en France et en Europe, on doit pouvoir constitutionnaliser le droit à une fin de vie digne. Comme le droit à l'avortement.
À l'euthanasie.
Oui, je pense que nous devons le défendre. Nous l'avons toujours défendu.
Mais sur le cas Vincent Lambert, pourquoi ça ne s'appliquerait pas clairement pour vous dans ce cas-là ?
Je pense que ça doit s'appliquer, mais je vous l'ai dit, je suis vigilante. Vous avez face à vous un drame humain et une famille. Il faut comprendre la détresse de la famille et je la comprends. Après, il y a eu un recours juridique, y compris devant la Cour européenne des droits de l'homme. Vous savez, moi, j'ai un parcours en droits de l'homme, donc je suis plutôt respectueuse de ces instances-là.
Alexis,
le fait qu'un code des comités de l'ONU et dit il faut sursoir à cette décision, ça vous n'infléchit pas, ça fait pas évoluer votre réflexion.
Alors vous savez, il y a un principe en droit international, pour le coup je m'y connais assez bien, qui dit que en théorie une deuxième instance de droit international ne doit pas venir suppléer une première instance de droit international. Et en l'occurrence, il y a eu une décision de la Cour européenne des droits de l'homme qui, je crois, doit être suivie des faits. C'est quand même l'objectif et le rôle que joue la Cour européenne des droits de l'homme.
Christophe Jakubizine, on passe à l'actualité sur le chômage.
Le chômage avec une embellie sur le marché de l'emploi au premier trimestre, en tout cas 2019, avec le chômage qui recule une nouvelle fois. Est-ce que ça finalement valide la politique du gouvernement sur la flexibilité du marché du travail, peut-être sur les baisses des charges ? Je vous vois sourire, mais on anticipe votre réponse, mais on l'écoute quand même.
Vous pouvez faire les questions et les réponses,
non,
sinon.
Non,
puis sérieusement, quand on regarde quand même de très près, si on veut louer la politique du gouvernement, il y a quand même 200 000 chômeurs de plus qu'au début du quinquennat de M. Macron. Donc je crois qu'on ne peut pas encore dire qu'il a fait reculer le chômage par rapport à son arrivée. Par ailleurs, ce qu'on voit en pratique, c'est qu'aujourd'hui, cette baisse du chômage, elle s'explique par quoi ? Par d'abord une baisse de la population en activité, notamment avec le vieillissement de la population, premièrement.
La population active continue d'augmenter année après
année. Et deuxièmement, quand on regarde de très près, de quel type...
On trouve à peu près 100 000 emplois nouveaux pour suivre l'évolution de la population active dans notre pays.
De quel type d'emploi nous parlons ? Aujourd'hui, 87% des nouvelles embauches sont faites en CDD. Et qui plus est, en CDD de contrat très court. Donc si vous réglez le problème de manière éphémère et quelqu'un sort des statistiques du chômage pour y rentrer un mois ou deux mois plus tard, c'est problématique. Et nous disons qu'on ne peut régler la question de l'emploi sans faire de la relance économique. On l'a vu, le peu d'argent qui a été donné dans le cadre des Gilets jaunes, ça relance la croissance et derrière l'emploi.
C'est peut-être ça qui explique aussi ce regain d'activité, c'est qu'il y a de l'argent qui a été remis dans la machine.
Nous, on a été le premier à le dire que si vous remettez de l'argent dans la machine et quand vous donnez qui plus est aux plus pauvres, a priori, les populations les plus pauvres ne vont pas spéculer sur les marchés financiers ou amasser de l'argent sous leur oreiller. A priori, ils vont plutôt le consommer directement. Et donc, ça participe du.
Donc, on va féliciter les 10 milliards qui ont été donnés par le gouvernement et plus même, puisqu'il va y avoir des baisses d'impôts.
On l'a toujours dit que les 10 milliards, c'était mieux que rien. Mais attendez, regardons de très près ce qui a été fait en pratique. C'est quelques cacahuètes qui ont été envoyées, qui sont toujours bienvenues, évidemment. Mais on est très loin des aspirations qui ont été celles, notamment du mouvement des Gilets jaunes, mais plus largement avec ou sans Gilets jaunes. Les gens étaient pour le rétablissement de l'ISF, les gens étaient pour, ils sont toujours d'ailleurs, pour l'augmentation du SMIC, pour un plus grand partage des richesses, pour une plus grande justice fiscale, c'est-à-dire une progressivité de l'impôt. C'est simple, plus vous êtes gros, plus vous payez gros, plus vous êtes petit, plus vous payez petit. C'était le slogan des Gilets jaunes. Et je crois qu'il résume à lui seul l'ambition de justice fiscale qui n'a pas été écoutée par le gouvernement et qui n'a donné suite à aucune de ses revendications. Il faut l'avoir en tête. Aucune de ses revendications n'a été
ce mouvement des Gilets jaunes, vous diriez que c'est fini ou que ça va continuer?
Mais je crois qu'on a assisté, et je pense que vous serez d'accord pour le dire, au plus grand, un des plus grands mouvements de l'histoire récente. On a rarement vu pendant plus de 26 semaines, 27 semaines.
Maintenant, il y a quand même beaucoup moins de monde dans la rue. Il y en a quasiment plus sur les ronds-points. Donc, vous dites, bon, c'est fini, on passe à autre chose, à une phase politique, ou ça va continuer?
Je crois que ce qui s'est passé dans les rues ces 27 dernières semaines ne s'arrêtera pas. Ne s'arrêtera pas, alors ça prendra d'autres formes, peut-être, parce que les gens sont fatigués, sont crevés. Franchement, mettez-vous à la place d'un gilet jaune qui va manifester tous les samedis depuis 27 semaines, qui a occupé des ronds-points, qu'on a accusé de violent, qu'on a accusé d'antisémite, qu'on a pointé du doigt pendant 27 semaines. C'est fatigant et je crois qu'il faut le comprendre, ce sentiment-là. Mais aujourd'hui, personne ne peut renier le fait que ça marque l'histoire et que les revendications qui sont partagées par les Gilets jaunes sont en réalité partagées par une grande partie de la population française.
Pourquoi ils ne vous rejoignent pas, Manon Aubry? Pourquoi ils ne votent pas massivement?
Vous savez, nos 60...
Attendez, je cite Jean-Luc Mélenchon, « Ne nous laissez pas tomber », leur a-t-il dit, comme une sorte d'aveu d'échec de pouvoir les ramener vers vous.
Je crois que nos 79 candidats sur la liste de la France Insoumise sont 79 Gilets jaunes. On a tous manifesté dans les rues.
Vous êtes un Gilet jaune, Manon
Aubry? Mais moi, j'ai manifesté, oui. Mais on ne prétend pas résumer le mouvement à nous-mêmes, parce qu'on n'a pas voulu faire de récupération politique, mais le mouvement
Jean-Luc Mélenchon a toujours dit qu'il se sentait, si les Gilets jaunes le souhaitaient, le leader de ce mouvement, qu'il pouvait l'incarner, n'y voyait pas
d'incarner. Je vous invite à regarder, à aucun moment on s'est posé en leader de ce mouvement. Vous avez remarqué qu'on a toujours été vigilants.
Il les laissait faire s'il souhaitait se ranger derrière lui.
Quand on nous demandait, par exemple, est-ce que vous êtes pour la conduite ou l'arrêt du mouvement, on a toujours été très précautionneux en nous disant, nous, tant que les revendications n'ont pas été satisfaites, on pense qu'on doit continuer. Mais ce n'est pas à nous de répondre à cette question, c'est à l'ensemble des Gilets jaunes qui sont mobilisés. Je crois que c'est toute la difficulté que vous avez eue, les médias et les journalistes, si je peux me permettre, c'est que ce mouvement est d'une forme inédite, il n'y a pas de leader.
Mais vous n'avez pas de difficulté. On peut, évidemment, et chacun doit regarder un peu et faire son examen de conscience. Est-ce que vous n'êtes pas dit on est passé à côté de quelque chose, on ne sait pas vraiment incarner ces aspirations-là?
Et je pense qu'aujourd'hui, le seul mouvement politique dont les revendications, dont le projet fait écho aux demandes des Gilets jaunes, c'est la France insoumise, que ce soit en matière de partage des richesses, en matière de justice fiscale,
ça ne se voit pas
en matière démocratique. Les sondages, on verra le résultat dans les urnes le 26 mai prochain. Vous aurez remarqué qu'il y a plutôt une dynamique positive ces derniers jours pour la France insoumise. Et puis, je crois que le véritable enjeu, je vais être honnête avec vous, c'est que les gens aillent se mobiliser. Parce que moi, quand je vais manifester, quand on fait du porte-à-porte, vous savez, il y a plein de gens qui nous disent « Ouais, on va pas manifester, mais on se sent gilet jaune, mais on n'a pas forcément envie de voter parce qu'on est dégoûté par le
Alors, on va
politique.
Venir aux européennes. Mais Christophe Jacubizi, dans le cas
juste,
de l'actualité.
Vous avez raison, il faut attendre le dimanche prochain pour avoir votre résultat. Mais néanmoins, si vous êtes à 9 ou 10%, c'est-à-dire la moitié moins du score de Jean-Luc Mélenchon à la présidentielle, est-ce que ça doit entraîner un changement stratégique de ligne politique pour la France insoumise?
Alors, si vous me permettez, je crois que le point de comparaison le plus pertinent, c'est celui des élections législatives où l'offre politique était similaire. Nous étions à 11%. On est en dynamique positive. On gagne des points dans les sondages. Et vous savez comment on gagne des points dans les sondages? Parce que l'intérêt est grandissant pour ces élections. Il n'est pas encore à la hauteur, à mon sens. Et parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui se disent que, on ne veut pas se faire confisquer ce vote pour les élections européennes. Je crois qu'aujourd'hui, la France insoumise est le seul bulletin de vote en capacité de déjouer le duo entre le Rassemblement national et la République en marche, de déjouer ceux qui vont gouverner ensemble après au Parlement européen, que ce soit les Verts et la droite au Parlement européen ensemble. Et je crois que c'est ça que nous incarnons pour cette élection. Et en tout cas, c'est sur ce terrain-là, qui est le terrain des idées, sur lequel nous allons encore nous battre.
Alors, dernière question d'actualité.
Il y a une affaire qui a compté, en tout cas au départ de cette affaire des Gilets jaunes, c'est la limitation de vitesse à 80 km/h. Le Premier ministre a fait marche arrière en disant qu'on allait pouvoir, ou les préfets ou les présidents de conseils généraux allaient pouvoir la remonter. Vous dites qu'il a eu raison, que c'est une bonne décision, ou bien qu'on sait faire courir un risque d'accident supplémentaire?
Déjà, on ne sait pas très bien où il habite, parce que si vous laissez ça au préfet, c'est-à-dire que vous passez d'un département à l'autre, vous n'allez pas avoir la même règle, il y a clairement un manque de lisibilité. Ensuite, je crois que sur cette histoire, on s'est trompé en de nouveau pointant du doigt les automobilistes sans leur donner d'alternative de transport. Moi, je comprends le sentiment des gens qui se disent « Ok, concrètement, pour aller à mon boulot, je vais mettre quelques minutes de plus parce que j'ai déjà beaucoup de trajets à parcourir ». Je crois qu'à terme, il faudra réduire la vitesse parce que c'est mieux pour l'écologie, évidemment, et c'est mieux pour notre planète. Mais il faut d'abord fournir des alternatives de transport.
Donc,
plus rapide.
C'est plutôt une bonne chose d'assouplir,
mais
en tout cas maintenant.
Je crois, si vous voulez vraiment mon avis, je crois que c'est un outil électoraliste du gouvernement qui se réveille trois semaines après.
C'est une des réponses, vous dites qu'ils n'apportent pas de réponse, là c'en est une.
Non mais vous croyez vraiment que c'est la revendication principale aujourd'hui des Français?
Les Français... Ça les préoccupe, non, visiblement.
Mais est-ce que... Je
vous
pense,
croyez pas.
On peut chacun avoir sa vision des choses. Moi je crois qu'au quotidien, que disent les gens, et sans doute une grande partie des gens qui manifestaient dans les Gilets jaunes, c'est qu'on a le droit à une vie digne, qu'aujourd'hui, il y a les 8 milliardaires les plus riches en France qui possèdent autant que les 30% les plus pauvres de la population française, et ça, c'est pas normal, et qu'il faut s'attaquer au partage des richesses. Je crois que c'est une préoccupation aujourd'hui qui est majeure et qui est celle qu'on incarne, et qui met en parallèle la question écologique, parce qu'on a voulu faire de l'écologie punitive, comme l'a voulu le faire le gouvernement, notamment avec la taxe carbone. Et nous, nous prenons une écologie populaire qui se fait avec les classes populaires, qui pénalise les pollueurs, les plus riches, les grandes entreprises multinationales. C'est sur ces deux jambes, finalement, que nous allons marcher. Partage des richesses d'une part,
alors,
et écologie d'autre part.
On en vient aux élections européennes. À 29 ans, vous voilà pour votre première campagne, donc à la tête de la liste de la France Insoumise, hein, Manon Aubry. Vous y donnez pleinement, autant que dans vos matchs de waterpolo que vous pratiquez assidûment et que vous continuez à pratiquer. Sport difficile, je le précise.
On a gagné le championnat, c'est peut-être de bon augure pour le...
Mais écoutez, en tous les cas,
pour les élections européennes.
C'est dit. Pas simple, hein, de faire campagne quand on sait quand même à quel point Jean-Luc Mélenchon incarne ce mouvement, hein, et qu'il est toujours difficile de se détacher d'une figure tutélaire aussi imposante. Est-ce que justement, eh bien, vous ne payez pas aussi dans les sondages les emportements, les excès de Jean-Luc Mélenchon. Vous avez parlé, vous, dans une interview, dans un entretien en face à Claire Nouvian, hein, de la liste Place Publique PS, d'un manque de sang-froid qu'aurait pu être celui de Jean-Luc Mélenchon au moment des perquisitions qui ont marqué les Français.
Je crois que quand on va voter pour une élection, on ne va pas voter pour ou contre une perquisition qui a eu lieu. Honnêtement, c'est un épisode qui ne résume absolument pas la ligne politique.
Est-ce que vous pensez qu'il y a eu des excès?
Je pense que l'excès, il est de la part de la justice.
D'abord. Uniquement.
Il est d'abord de la part de la justice. Il est d'abord de la part de la justice.
Donc.
Quand
d'abord,
vous déployez un dispositif de l'ordre, d'un dispositif antiterroriste, il faut bien prendre conscience de cela. Alors oui, moi je vous dis, la réaction qu'a eue Jean-Luc Mélenchon, je pense que ce n'était pas forcément la bonne et je n'aurais pas eu celle-là, mais c'est difficile à dire, je n'étais pas dans cette situation et je pense que la démesure, elle est d'abord du point de vue judiciaire. Et puis vous savez, je pense que la politique ne doit pas se résumer à cela. Moi, ça fait 6 mois que je fais de la politique, je le découvre, et je suis assez sidérée.
C'est dur, mon nombril.
Ouais, franchement, c'est dur. C'est dur parce que sans cesse, on
plus
nous ramène...
Plus dur que ce que vous pensiez.
Ouais, et moi je comprends. Que, je vais vous dire franchement, je comprends que les gens soient dégoûtés de la vie politique. Parce que parfois, la politique, ça ne fait pas envie. Parfois, la politique, c'est un débat de petites phrases. C'est débat aussi de personnes. Eh bien, moi, je me suis engagée en politique parce que j'ai le sentiment que c'est le seul moyen de changer les choses. J'ai travaillé dans le secteur associatif pendant des années, mis sur la table des propositions en matière de lutte contre l'évasion fiscale, en matière de lutte contre le changement climatique. Et j'ai fait face au manque de volonté politique, au poids des lobbies. Et si on veut agir, eh bien à la fin, il faut des propositions politiques. Le seul moyen de le faire, c'est en s'engageant. Et quitte à dénoncer toutes ces tentatives de verrouiller le débat démocratique qui sont bien trop nombreuses et qui ne cesseront de me sidérer, pour être honnête.
Vous êtes là justement pour libérer s'il y a des verrous à
l'exil. La question, est-ce qu'il y a un verrou? Il y a un instant, François-Xavier Bellamy déplorait que la campagne des européennes soit en quelque sorte confisquée par cette espèce de duopole entre Macron d'un côté, Marine Le Pen de l'autre, et il disait qu'il y a une espèce de duel factice qui est en train d'être mis en place. Est-ce que vous dites la même chose? Vous dites on nous vole notre campagne?
Oui, je crois que de manière évidente, on est en train de rejouer le second tour de l'élection présidentielle. Moi, je veux rappeler à tous ceux qui nous écoutent ou qui nous regardent, cette élection, elle se joue à un seul tour, à la proportionnelle. Ceux qui auront des élus sont ceux qui en font plus de 5% de vote dans les urnes. Et je crois qu'aujourd'hui, je vous le disais tout à l'heure, la France Insoumise est la seule à même de déjouer ce duo entre La République En Marche et le Rassemblement National en posant une véritable alternative. Nous n'allons pas gouverner avec les libéraux au Parlement européen comme d'autres vont le faire. Nous allons nous opposer toujours pied à pied contre ce que défendent La République En Marche et le Rassemblement National, à savoir l'augmentation du temps de travail, parfois les traités de libre-échange, des politiques antisociales, ils sont tous deux contre la hausse du SMIC. Aujourd'hui, nous sommes la seule alternative.
Mais vous reprochez, vous aussi, à Emmanuel Macron d'instrumentaliser le Rassemblement National ?
Oui, il se pose comme c'est moi ou le chaos. Moi, j'ai le sentiment qu'on a lui et le chaos. Et qu'en s'opposant comme seul rempart potentiel à l'extrême droite, il est en réalité son marchepied. Parce que qu'est-ce qui crée du désaveu, de la colère aujourd'hui ? Ce sont les politiques libérales qui ont été menées au niveau européen. Ce sont ces politiques. L'Union européenne est devenue un espace de compétition de tous contre tous. Moi, j'ai appris à l'école, parce que je suis née après la construction de l'Union européenne, que l'Union européenne devait être un espace de coopération, d'émancipation. Moi, je tiens à cet idéal-là. Mais ils l'ont détruit parce qu'ils créent du dumping social avec le statut de travailleur détaché, compétition en matière fiscale avec les paradis fiscaux européens comme le Luxembourg et l'Irlande. Voilà ce qui est devenu leur Union européenne.
Vous condamnez ce duel, sauf qu'il y a eu un événement de campagne cette semaine qui a semé le trouble, puisque Andrea Cotarache, qui est élu régional La France Insoumise en Rhône-Alpes et ancien membre de l'équipe de la campagne présidentielle de Jean-Luc Mélenchon, a annoncé donc en début de semaine mardi soir qu'il quittait votre mouvement pour voter pour la liste du Rassemblement National aux élections européennes pour, dit-il, faire barrage à Emmanuel Macron en disant, selon lui, qu'il y a plusieurs convergences. Il parle entre vous et le Rassemblement National sur l'opposition aux privatisations, sur la baisse des deux premières tranches d'impôts. Est-ce que, eh bien là, se pose pas à vous ce problème, cette idée qu'il peut y avoir des passerelles entre vous et le Rassemblement National, de manière concrète ?
Je vais vous le dire. Franchement, cette histoire, elle est odieuse. Ce type, personne ne le connaissait. Moi, je l'avais jamais rencontré de ma vie. J'avais jamais entendu parler de lui.
Pour la France Insoumise.
Et tout d'un coup, ça devient la star de cette élection. Il n'y a pas une seule interview où on ne nous pose pas la question. C'est un scandale. Je vais vous le dire, moi, ça me met en colère. Mon engagement est né de la lutte contre l'extrême droite. Nous sommes les seuls sur le terrain.
C'est pas votre engagement à vous.
Nous sommes les seuls. Allez voir sur le terrain. Laissez-moi répondre à votre question, s'il vous plaît. Nous sommes les seuls sur le terrain à nous battre pied à pied contre l'extrême droite, à dénoncer aujourd'hui les convergences qui existent entre La République En Marche et l'extrême droite. Sur le fond, parlons des idées. Ils sont tous les deux contre la hausse du SMIC. Ils sont tous les deux contre le partage des richesses. Tous les deux contre le rétablissement de l'impôt de solidarité sur la fortune. Les convergences, elles sont là, si vous en cherchez. Alors, cessez d'instrumentaliser la dérive
communautariste dans La France Insoumise, qui ne sont pas clarifiées.
Mais qui peut croire ça ? Franchement, la ficelle, elle n'est pas un peu grosse à 10 jours des élections, que sur chaque plateau que je vais faire jusqu'au 26 mai, on va me poser la question. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Qu'il y a des ambiguïtés sur le fond. Mais le fait que vous me posiez la question, je vais vous le dire, et je m'adresse ici à tous les médias qui nous regardent. Arrêtez, la ficelle, elle est trop grosse. Vous savez que sur le terrain des idées, nous sommes aujourd'hui le seul rempart à l'extrême droite et à La République En Marche.
Mais il y a comme un sondage qui montre que les sympathisants, au-delà du cas de ce gars, il y a quand même un sondage qui montre que les sympathisants de la France Insoumise se sentent beaucoup plus proches que par le passé des idées du Front National.
Mais là aussi, c'est une instrumentalisation. Regardez, en pratique, ce qui s'est passé. Quelle porosité y a-t-il eu sur les électeurs de Jean-Luc Mélenchon en 2017, 2% entre la France Insoumise et le Rassemblement National. Moi, je vais montrer un autre sondage. Je ne sais pas si on le voit ici à l'antenne. Là, vous regardez.
Alors, je
vais vous l'expliquer.
Cette émission est diffusée sur RTL.
Je vais vous l'expliquer. C'est un sondage qui dit le second choix des électeurs pour les élections européennes. Ce second choix pour les électeurs de la France Insoumise, c'est d'autres mouvements politiques de gauche et c'est de manière très marginale le Rassemblement National. En revanche, s'agissant des Républicains, leur second choix pour les élections européennes, c'est le Rassemblement National à hauteur de 19%. Voilà aujourd'hui la véritable porosité qui existe. S'il vous plaît, d'instrumentaliser et de kidnapper. Vous faites un double kidnapping de cette élection européenne. C'est autant de temps qu'on ne passe pas sur le terrain des idées.
Alors on y vient. Et toutes les questions sont bien sûr ici posées au grand jury, à tous les invités, sans tabou. C'est ainsi ce qu'est conçu cette émission, un grand oral. Donc on vient au programme, au fond du programme, bien sûr. On en a déjà parlé, mais on continue avec Question Express.
Le grand jury, Question Express.
Manon Aubry, pour ou contre 5 propositions ? La fin de la règle des 3% de déficit.
Pour, bien sûr, cette règle, elle ne sort de nulle part. Elle a été écrite sur un coin de table dans les années 80. Elle ne correspond à aucune réalité économique. On est les seuls à l'appliquer dans le monde. Et moi, je vais vous le dire, si on veut faire la transition écologique, oui, il faut investir des dizaines de milliards d'euros pour ambitionner
quand on est déjà endetté à
100% d'énergie renouvelable. Mais vous savez, on emprunte aujourd'hui sur les marchés financiers.
Oui, aujourd'hui, c'est vrai que c'est pas cher.
Un taux inférieur à celui de l'inflation.
Et vous êtes
donc
sûr
on gagne
que ça restera pas cher, les emprunts ?
Et moi, je peux vous dire, moi, je préfère vivre dans une société avec 3% de déficit que dans un pays où il y a 3 degrés de réchauffement climatique, parce que les dégâts sont irrémédiables. Aujourd'hui, c'est la dette climatique qui est bien plus grave que la dette
salaire minimum européen.
Pour Évidemment, aujourd'hui, ce qui a été créé au niveau européen, je vous le disais, c'est une compétition en matière sociale où les entreprises se jouent de ces écarts de salaire. Nous, nous défendons un salaire minimum européen qui correspond à 75% du salaire médian de chaque pays, ce qui correspondrait à plus de 1500 euros en France, et avec un processus de convergence entre les différents États européens pour qu'enfin, on fasse une convergence par le haut et non plus vers le bas, comme l'Union européenne le fait ces dernières années.
Supprimer le Parlement européen à Strasbourg pour le laisser à Bruxelles uniquement et dans le but de faire des économies, pour ou contre ?
Contre, je crois que le Parlement à Strasbourg est issu d'une histoire particulière.
Vous êtes d'accord avec François Bellamy, et puis avec d'autres partis également en France.
Oui, qu'est-ce que vous voulez dire par là que...
Non, je vous dis juste un constat. Et non, pose aussi ce débat entre les Allemands et nous.
La question sur le fond, c'est aujourd'hui le Parlement de Strasbourg, c'est le fruit d'une réconciliation européenne entre les différents États européens. Par exemple, se trouve la Banque Centrale Européenne à Francfort en Allemagne. Donc chaque pays a des institutions européennes. Je crois que toucher à cet équilibre serait dangereux.
Et enfin, l'élargissement de l'Union européenne à la Turquie et à l'Albanie, Manon Aubry.
Contre, tant que nous n'avons pas fait et entamé ce processus d'harmonisation sociale et fiscale par le haut, intégrer de nouveaux pays reviendrait simplement à élargir la compétition du tous contre tous, qui est déjà l'Union européenne. Fixons-nous un cap d'harmonisation sociale et fiscale d'abord. Contre tant que, et d'accord, ça vaut pour l'ensemble des élargissements. Et je crois que c'est le chantier prioritaire auquel nous devons nous attaquer à l'heure actuelle.
Et vous parlez souvent d'Europe parallèle si le plan A ne marche pas. Vous parlez d'un plan B, mais on ne comprend pas trop cette Europe parallèle si jamais vous n'arrivez pas à faire changer les traités de l'intérieur. C'est quoi cette Europe parallèle ?
C'est faire une coopération avec tous ceux qui le veulent. Vous savez, aujourd'hui, l'Union européenne est déjà à géométrie variable. L'espace Schengen ne comprend pas l'ensemble des États membres, l'euro évidemment. Et donc aujourd'hui, nous avons la conviction que si nous plaçons l'ambition écologique et l'ambition sociale au-dessus de tout, oui, nous pouvons embarquer d'autres États avec nous qui seraient intéressés de faire avec nous un impôt sur les sociétés en commun pour lutter contre l'évasion fiscale notamment, de faire ensemble la transition écologique et se donner l'ambition de 100% d'énergie renouvelable. J'ai le sentiment que ce sont des objectifs plutôt réalistes, pragmatiques et que d'autres États pourraient nous suivre.
Dernière question, Christophe Jacubizine.
François Ruffin, vous apportez lors d'un meeting son soutien et son renfort populiste, je cite. Vous êtes populiste, Manon Aubry ?
Ça veut dire quoi être populiste ?
Justement,
c'est la question. Si ça veut dire incarner les revendications populaires, alors oui, je le suis. Si ça veut dire être dogmatique, alors non, je ne le suis pas. Parce que très souvent, on inclut une dimension dogmatique là-dedans. Je crois qu'aujourd'hui, la politique s'est éloignée.
C'est un mot qui vous gêne ? Vous pensez que c'est un mot ?
Non, mais c'est ce que vous mettez derrière qui peut me gêner. Mais je crois que la politique s'est éloignée du peuple pendant trop longtemps. Et qu'il faut que la politique se rapproche du peuple. C'est ce qu'on fait à la France Insoumise avec moi qui suis tête de liste et qui n'ai jamais fait de politique avant, et avec toutes les démarches citoyennes que nous faisons, à commencer aujourd'hui par la présentation de directives qui ont été élaborées avec les citoyens.
Merci beaucoup, Manon Aubry. C'était votre grand jury. Nous vous retrouvons sur nos antennes et dans le Figaro, bien sûr, toute cette semaine pour cette campagne des européennes. Très bon dimanche à tous. À très vite.